Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30, l'information jusqu'à 13h. Heureux de vous retrouver, bonjour Céline.
Plaisir partagé, bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une évidemment, les 230 migrants de l'Ocean Viking qui ont pu mettre pied à terre ce matin à Toulon, où le bateau de SOS Méditerranée a pu débarquer au terme d'un long bras de fer avec l'Italie. Qu'est-ce qui les attend maintenant? Et quid des autres navires humanitaires qui sillonnent la Méditerranée pour venir au secours des migrants? On y reviendra évidemment tout au long de ce RTL Midi. Dans ce journal également, les commémorations du 11 novembre, 104 ans après la fin de la Grande Guerre. Karim Benzema adulé à Bron, là où tout a commencé pour le Ballon d'Or français. Et puis on va vous parler de cette nouvelle enseigne low cost espagnole qui débarque en Ile-de-France. Prima Prix, c'est son nom. Mais comment se porte le secteur du low cost? Les magasins qui cassent les prix s'en sortent-ils toujours aussi bien? On en parlera à 12h40.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour le Bas-Rhin, où une commune veut créer un cimetière en pleine forêt. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, le Made in France, son salon se tient à Paris. Mais les Français sont-ils si patriotes au moment de sortir leur portefeuille? On vous dit tout. Juste avant 13h, LVT à midi, votre rendez-vous culture et le retour de Kenji Girac, L'école de la vie, son cinquième album sort aujourd'hui. La question du jour sur notre site rtl.fr, guerre de 14-18, parlez-vous de l'histoire de votre famille à vos enfants?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Je rajoute un sujet qui peut-être nous concerne. Céline, que pensez-vous de la grande différence d'âge dans un couple?
Je suis pas contre évidemment. Avant de parler de nos histoires personnelles, Pascal, un point sur la météo. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Eh ben, si on est au sud, tout va bien. Un temps ensoleillé au nord, ça traîne un petit peu.
Merci à Valérie. La météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Les 230 migrants de l'Ocean Viking ont donc pu débarquer ce matin dans le port de Toulon. Une première en France après un long bras de fer avec l'Italie qui refusait de laisser le bateau de SOS Méditerranée accoster dans l'un de ses ports. Étienne Baudu, les migrants sont donc à terre mais n'ont pas fini leur périple.
Oui, alors à peine débarqués un peu avant 9h ce matin, les 230 réfugiés ont tout d'abord été pris en charge pour une évaluation sanitaire. 3 semaines en mer, ça peut évidemment laisser des traces. Ensuite, la police de l'air et des frontières ainsi que la DGSI sont en train de réaliser des vérifications dites sécuritaires, les identités bien entendu, mais aussi déterminer si d'éventuelles personnes dangereuses, entre guillemets, auraient pu être à bord. Et puis très vite, tous vont être transférés dans un village vacances sur la presqu'île de Gien. Alors là, rien à voir avec un quelconque lieu de détente, non, ils seront dans une zone d'attente temporaire, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas encore officiellement sur le sol français. Et c'est là qu'ils pourront faire une demande d'asile. Éric Jallon est le directeur général des étrangers en France.
On est dans ce cadre-là, dans une procédure dite d'asile à la frontière. Ils seront entendus par un agent de l'OFPRA de manière à pouvoir réaliser jusqu'à 90 entretiens par jour. Et c'est à l'issue de ces entretiens que l'OFPRA nous dira si la demande d'asile est manifestement fondée ou manifestement infondée.
Et si cette demande est fondée, eh bien les migrants seront dirigés vers des centres d'hébergement dans la région et entreront dans le parcours classique d'une demande d'asile. C'est là aussi qu'ils pourront aussi être relocalisés dans d'autres pays européens qui se sont portés volontaires pour les accueillir. Si la demande en revanche est infondée, eh bien ils retourneront dans leur pays d'origine. C'est ce qu'a tenu à préciser hier Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
Étienne Baudu à Toulon pour RTL. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, dénonce de son côté une réaction française agressive, incompréhensible et injustifiée. Paris a en effet annoncé des mesures de rétorsion envers Rome qui a refusé d'accueillir le navire dans l'un de ses ports. Mais quel sort est habituellement réservé à ces bateaux humanitaires qui secourent les migrants en Méditerranée? Que dit le droit? On en parle longuement juste après le journal. La zone euro devrait entrer en récession en fin d'année d'après la Commission européenne. La faute évidemment au prix élevé de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.
RTL Midi.
104 ans après l'armistice, la France commémore la fin de la guerre 14-18.
Oui, celle qu'on espérait être la der des der sur le continent européen, avec une résonance particulière cette année en plein conflit ukrainien. Et comme chaque année, Julien Fautra, le président de la République, est allé se recueillir sur la tombe du soldat inconnu.
Oui, et un hommage émouvant aux morts pour la France cette année. Le 11 novembre, c'est aussi adressé à tous les soldats disparus en opération extérieure. 2 soldats sont morts en mission depuis un an.
Maréchal des logis chefs, Adrien Quélin. Brigadier chef, Alexandre Martin. aux morts.
Le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin était mécanicien, 29 ans, mort au Mali accidentellement lors d'une opération de maintenance sur un camion. Toujours dans le cadre de l'opération Barkhane, le brigadier-chef Alexandre Martin, 24 ans, tué par des djihadistes lors d'une attaque au mortier contre le camp français de Gao. Le 11 novembre est également un hommage à ces deux soldats. Le protocole est classique, par définition, dépôt de gerbes, ravivage de la flamme du soldat inconnu sous les yeux de personnalités, l'ancien président Nicolas Sarkozy au premier rang, et dans le contexte du retour de la guerre en Europe, du retour des tranchées, du retour des feux d'artillerie et des centaines de morts quotidiens.
Julien Fautra sur les Champs-Élysées pour RTL. Les Insoumis annoncent vouloir saisir l'ARCOM après la vive altercation hier soir sur le plateau Touche pas à mon poste entre le député insoumis Louis Boyard et le présentateur Cyril Hanouna. Le ton est monté entre les deux hommes lorsque l'élu a évoqué les enduits judiciaires de Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne sur laquelle l'émission est diffusée. « Tais-toi, bouffon, abruti » a notamment lancé le présentateur aux députés.
Le sport et le retour attendu de l'enfant prodigue aujourd'hui à Lyon.
L'attaquant Karim Benzema, tout juste auréolé du Ballon d'Or, est annoncé là où tout a commencé, à Bron, donc dans la banlieue lyonnaise, où une fresque à son effigie a été dévoilée. Et la présence du joueur est attendue, Bertrand Frachon.
Sur fond bleu et jaune, Karim Benzema en pleine course, le bras levé, semble interpeller visuellement les milliers d'automobilistes qui passent devant la fresque sur les périphériques. À Bron, Daoud est venu en voisin admirer le résultat ce matin.
Ça représente bien la personne qu'il est, Karim, donc un travailleur. Je l'ai connu quand il jouait en jeune à l'Olympique Lyonnais. Et déjà à partir de 15 ans, il démontrait ses qualités. Et on devinait par son jeu qu'il allait devenir un très bon joueur, voire même un des meilleurs avançants de l'équipe de France.
Pour Yannick, habitant également du quartier, Benzema est un véritable exemple.
C'est le travail qui paie. La discipline, c'est une grande fierté. Ça donne, comme j'ai un petit jeune là, au quartier, à traverser, il a dit, hey, c'est possible d'aller loin. Et quand il a vu ça, il a dit, mais Karim, il était ici, tout le monde connaît la vie de Karim, et voilà. Donc il est parti de zéro pour devenir un héros, quoi. C'est l'héros de Lyon, quoi.
Maintenant, tout le monde ici espère bien une visite de Karim Benzema sur place pour qu'il découvre sa fresque.
Bertrand Frachon à Bron pour RTL. Des nouvelles d'un autre attaquant, Sadio Mané, le Sénégalais, deuxième lui au classement du Ballon d'Or cette année, est bien sélectionné pour le Mondial au Qatar malgré la récente blessure au péroné qui compromet ses chances de jouer. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin, ça reste gris et froid par endroits.
Ah bah oui, bah sur le nord du pays, franchement, ça va tarder à se lever. On a un ciel bien gris actuellement entre le Morbihan, la Loire-Atlantique et en allant jusqu'aux frontières du nord et de l'est en passant par le bassin parisien. Ce sont des brumes, des nuages bas, des brouillards qui devraient se lever. Mais c'est vrai que ça traîne, du coup les températures ne grimpent pas. Plus on descend vers le sud, plus on trouve un temps très ensoleillé avec quelques entrées maritimes en Languedoc-Roussillon. Et les températures justement, bah forcément ça pique un petit peu sous la grisaille. 11 degrés à prévu cet après-midi au meilleur de la journée. Pour l'instant, il en fait 8, 14 degrés à Alençon, à Lille, à Paris. Pour le moment, on a 10 degrés seulement. Comptez 20 degrés à Biarritz et 21 degrés à Montpellier.
Merci Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et où allons-nous partir aujourd'hui, Céline? Un jour chez vous, chaque jour, l'info au plus près de vous.
Eh bien, je vous propose une petite balade dans le Bas-Rhin à Muttersholtz. Bonjour Yannick Holland.
Bonjour.
Alors, ça existe déjà dans certains pays européens, mais ce sera une première en France. La commune a décidé de créer un cimetière en pleine forêt pour y enterrer les cendres des défunts.
Et oui, direction la forêt au nord de la commune avec Michel Renaudet, le premier adjoint de Muttersholtz. On longe un étang et on tombe sur une petite clairière.
Alors, nous avons choisi cet endroit parce qu'on a ici déjà deux magnifiques chênes qui donnent un effet un peu cathédral et au pied desquels nous allons créer un tout petit espace de recueillement et de cérémonie avec des pierres pour que les gens puissent s'asseoir.
Tout autour de nous, des frênes, des acacias, des chênes sont marqués. Les familles des défunts pourront choisir au pied de quel arbre enterrer l'urne funéraire. 12 emplacements autour de chaque arbre.
Donc on fera un simple trou dans la terre, voilà. Et une fois l'urne enterrée, nous poserons tout simplement un pavé granit qui portera donc le nom du défunt, sa date de naissance, sa date de décès. Et bien sûr, nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'autres stèles ou monuments ou de fleurs en plastique. On est au plus proche de la nature.
Mais malgré tout, Yannick, Muttersholtz n'a pas pu aller complètement au bout de la logique avec le retour des cendres à la terre.
Non, ça reste interdit par la loi, comme le rappelle Michel Renaudet.
La législation française aujourd'hui nous impose que ce soit réversible. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'urne soit biodégradable. Nous, on aurait souhaité, mais donc les urnes seront en céramique ou en pierre, parce qu'il faut que ça puisse être réversible pour les familles, éventuellement, ou le cas échéant, la justice.
En tout cas, pour la commune, il y a un autre avantage écologique, c'est d'être certain que cette forêt ne sera jamais exploitée. Ça restera un sanctuaire protégé.
Et combien ça coûte de faire enterrer ces cendres dans cette forêt ?
Eh bien, le même prix qu'une place au columbarium de la commune, sachant qu'il y a des tarifs différents en fonction de l'arbre. Plus il est majestueux, plus cela coûte cher.
Pour les habitants de Muttersol, ça ira de 400 à 800 euros. Et pour les habitants hors Muttersol, ça ira de 800 à 1200 euros. On a déjà des demandes, en fait, voilà. Des gens qui ont eu vent du projet et qui trouvent ça complètement séduisant, bien sûr.
C'est-à-dire qu'ils veulent réserver leur place dans la forêt ?
Tout à fait.
Déjà des candidats, donc, mais il faudra encore attendre jusqu'au début de l'année prochaine pour avoir le droit d'avoir une place dans cette forêt funéraire.
Merci beaucoup Yannick Holland dans le Bas-Rhin, donc pour RTL.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On revient tout de suite sur ce qui se joue en Méditerranée après le débarquement ce matin des migrants de l'Ocean Viking à Toulon.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
C'est une première. Le navire humanitaire Ocean Viking a accosté dans la matinée en France, dans le port de Toulon, avec 230 migrants à son bord, après trois semaines d'errance en mer. Néanmoins, les rescapés ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre et ne seront donc pas techniquement sur le sol français dans l'immédiat. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour Sophie Joussin.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service étranger ici à RTL. Alors, on parle depuis quelques jours de l'Ocean Viking, mais ce n'est pas, loin de là, le seul bateau humanitaire à sillonner la Méditerranée.
Non, plusieurs ONG ont leur propre bateau et en dehors de l'Ocean Viking de SOS Méditerranée, il y a quelques jours, trois navires humanitaires ont débarqué au total près de 600 migrants en Italie, Reggio Calabria dans l'extrême sud du pays et à Catane en Sicile.
Au-delà des bateaux humanitaires, qui vient en aide aux migrants ?
Alors, d'autres navires recueillent effectivement régulièrement à leur bord des migrants en détresse, hein, parce que les bateaux humanitaires n'arrivent pas à être partout tout le temps. Et de toute façon, n'importe quel capitaine de navire doit prêter assistance dès qu'il reçoit un appel de détresse. Alors, ça peut être des navires militaires, des bateaux de pêche ou bien des cargos.
Mais en général, ils accostent où ces migrants ?
Alors pour les sauvetages en Méditerranée, les navires en détresse se trouvent presque en totalité entre la Libye et l'Italie ou entre le Maroc et l'Espagne. Ce sont les trajets les plus utilisés par les migrants. Donc les bateaux doivent accoster dans les ports les plus proches. Ça peut être ceux de l'Italie, mais également à Malte ou en Tunisie, voire en Espagne.
Ça, c'est ce que dit le droit maritime, Sophie.
Oui, le navire doit être accueilli dans le port sûr le plus proche. Alors, il faut savoir que la mer Méditerranée est divisée en plusieurs zones de recherche et de secours et chaque zone dépend d'un État. Et donc, ce pays se doit de secourir les passagers du navire en détresse et de les accueillir dans un de ses ports.
Et ensuite ?
Alors, dans un premier temps, les migrants sont pris en charge par le pays d'accueil. Au niveau européen, il existe depuis le mois de juin dernier, c'est très récent, un système de relocalisation selon lequel une douzaine de pays, parmi eux la France et l'Allemagne, doivent accueillir sur leur sol un certain nombre de ces migrants.
Mais alors, si le droit est si clair, Sophie, pourquoi ça provoque autant de débats ?
Eh bien, parce que les pays qui sont tout le temps en première ligne refusent d'accueillir systématiquement les navires en détresse dans leurs ports. Si on prend le cas de l'Ocean Viking, il a d'abord été refusé par Malte. C'est le premier pays qui aurait dû l'accueillir. Donc, il a demandé ensuite à l'Italie, qui a également refusé. Et il s'est donc tourné vers la France, qui a finalement accepté.
Ça veut dire que l'Europe n'arrive pas à régler cette question depuis des années.
Oui, très clairement, le problème est récurrent. L'Italie ou Malte se disent débordés par l'afflux de migrants, estiment que le système de relocalisation ne fonctionne pas correctement, que les pays qui s'engagent à accueillir des migrants, une fois qu'ils ont débarqué, notamment en Italie, ne le font pas. Il n'y aurait pour l'instant que 164 migrants sur les milliers reçus par l'Italie qui auraient rejoint un autre pays. C'est dans le cadre de ce processus de relocalisation que la France, d'ailleurs, a décidé de suspendre l'accueil prévu de 3500 réfugiés actuellement en Italie par mesure de rétorsion contre Rome après son refus d'accueillir l'Ocean Viking.
Et certains soulignent il ignorait qu'il existerait une complicité entre ces organisations non gouvernementales, ces ONG, et les passeurs. Et c'est toujours difficile sans doute à démontrer.
C'est très difficile à démontrer, très difficile à savoir.
Merci beaucoup Sophie Jousselin. L'accueil des migrants de l'Ocean Viking qui divise jusque dans la classe politique française. On y reviendra évidemment dans le journal de 12h30.
Tony Chardin chantait Made in Normandie, mais nous, nous allons parler du Made in France dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
C'est les ça m'avait choqué, cette chanson.
Les Français, les Anglais...
La voix
peut-être.
Bravo, Made in France par France Gall. Cette appellation, le Made in France, que tout le monde s'arrache aujourd'hui et qui représentait en 2019 80% de la consommation des ménages selon les calculs de l'INSEE. Le 10e salon Made in France s'ouvre porte de Versailles à Paris en partenariat d'ailleurs avec RTL. Et les fleurons tricolores qui profitaient de vents porteurs depuis le Covid redoutent que les consommateurs se détournent aujourd'hui de produits jugés trop chers alors que la filière, elle, reste fragile. Bonjour Fabienne Delahaye.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la présidente de ce salon Made in France. Est-ce que c'est toujours aussi porteur d'abord le Made in France ?
Alors oui, j'ai envie de dire plus que jamais. Toutes les études d'ailleurs menées depuis 5 ou 6 ans montrent l'engouement des Français pour la cause du Made in France et qui d'ailleurs n'a fait que s'amplifier depuis la crise du Covid, hein, la crise sanitaire. Et c'est vrai que le salon... On est un parfait exemple, puisque en 2012, on a reçu 75-80 exposants et 15 000 visiteurs, et qu'on a plus de 1000 entreprises aujourd'hui sur le salon Porte de Versailles, aujourd'hui, demain et après-demain, et on attend 100 000 visiteurs. Je vous invite à venir constater l'incroyable file d'attente depuis le métro pour venir rencontrer tous ces exposants, tous ces savoir-faire et se faire plaisir à quelques encablures des fêtes de Noël.
Quels sont les produits du Made in France qui ont le vent en poupe ?
Ah, j'ai envie de dire tous.
C'est beaucoup quand même.
Tous.
Est-ce qu'on est dans un secteur du logement ? Est-ce qu'on est dans d'autres secteurs ?
Je comprends. C'est plus facile de s'alimenter en Made in France. C'est plus facile de trouver de la gastronomie Made in France au quotidien, je dirais. C'est un petit peu aussi les raisons pour lesquelles j'ai créé ce salon. Mais je vous disais qu'on était un peu un baromètre du marché. Et vraiment, tous les secteurs d'activité sont représentés. La mode, la déco, la décoration, l'ameublement. Mmh. J'entendais une pub Gautier, numéro 1 de l'ameublement en France, avec plus de 850 personnes salariées en Vendée. Et bien sûr, également la gastronomie, on a des produits pour l'enfance. Et c'est d'ailleurs la première constatation que font, les remarques que me font, que ce soit les médias, les politiques, les visiteurs, c'est « mais il existe encore tout ça en France, et la diversité des produits présentés, c'est je crois ce qui étonne la plupart de nos visiteurs. »
On le sait, produire local, c'est parfois plus cher. Est-ce qu'en cette période d'inflation, alors que les Français font un petit peu attention à leur pouvoir d'achat, vous avez des craintes là-dessus ? Est-ce que les arbitrages vont être un petit peu différents ?
Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on avait fait, alors juste avant effectivement cette crise énergétique, on avait fait une étude avec un organisme de financement participatif pour savoir si les Français étaient prêts à transformer en acte leur volonté d'acheter Made in France, puisque toutes les études disaient que 93% des Français pensaient que acheter Made in France c'est préserver les emplois, certes, mais est-ce que, si je puis dire, ils mettent la main au porte-monnaie. Et donc, on a demandé aux entreprises, 400 entreprises ont été interrogées en disant, mais est-ce que vous voyez, vous, un effet sur le Made in France ? Et non seulement, évidemment, c'est l'ADN de leur société, le Made in France, mais en plus, ils nous, à raison de 75%, nous ont dit, c'est la raison de notre succès, c'est la raison de notre développement. Oui, le Made in France fait vendre. Alors, deuxième élément de réponse concernant l'inflation.
Et concernant le prix, parce que moi, j'ai une question très simple avec un exemple. Dans le domaine du sport, par exemple, aucun maillot de football n'est fabriqué en France. Aucun maillot de sport n'est fabriqué en France.
Est-ce que vous, Et je le déplore.
Est-ce que vous, dans le Made in France, vous avez des articles, des maillots de football, des maillots de sportifs, des tenues de sportives qui pourraient être fabriqués en France et vendus effectivement à un prix compétitif?
Alors, vous avez sur le marché, c'est très intéressant la question des prix. On a effectivement sur le salon pas mal d'articles de sport. Mais j'aimerais revenir sur la question des prix parce que d'abord, tous les produits fabriqués en France ne sont pas forcément plus chers. Là, vous parlez de sport, mais par exemple, DOP, c'est le produit le moins cher du marché au litre. Par ailleurs,
c'est quoi DOP? C'est le shampoing.
Hein. C'est le DOP, c'est un shampoing. Ah, c'est par ailleurs les inventeurs du shampoing. Avant, il n'y avait pas de shampoing en France, avant DOP. mais par ailleurs, juste trois choses et je serai rapide. C'est que parfois le made in ailleurs est très cher. Vous parliez de produits de sport, mais quel est le coût de chaussures comme Knight, les tailleurs Sandro, les produits comme Bache? Et donc la question du prix n'est rarement abordée. Quand il s'agit de produits par exemple allemands, on parle de made in Germany et on parle immédiatement de Dutch Qualität, rarement. La question du prix est abordée. Et les produits français sont aussi de bonne qualité. Et donc, en fait, le plus important quand on parle de prix, à mon sens, c'est aussi d'imaginer c'est quoi un prix sur une étiquette. Il faut aussi s'interroger sur les véritables coûts du made in ailleurs. Des coûts en termes de perte des emplois, en termes de perte de savoir-faire,
d'un point de vue, oui,
en termes de normes sanitaires.
Un point plus macroéconomique,
oui, on peut voir mais on le paye tous. On le paye tous au quotidien sur notre facture, en fait, que ce soit des impôts, que ce soit des charges salariale. Donc, voilà, pardon.
Non, je vous en prie. Comment être sûr d'être vraiment patriote quand on achète quelque chose de labellisé Made in France? Est-ce qu'on est sûr quand il y a... Enfin, je sais pas, quand on voit ce nom Made in France, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment produit chez nous de A à Z?
Alors, vous avez un certain nombre de labels comme Origine France Garantie où un organisme certificateur vient vérifier la véracité de vos allégations. Il y a les entreprises patrimoine vivant, vous connaissez les AOC, appellation d'origine contrôlée, les AOP, etc. Donc, vous avez des labels. En dehors de ça, vous avez l'IMF, c'est le code douanier, c'est la fameuse appellation Made in France qu'on connaît tous, qui n'est pas un label en tant que tel, mais qui est une
donc
autorisation.
Donc on peut faire confiance à ces appellations-là.
Alors oui, les appellations, on peut y faire confiance. Quant au code douanier, c'est une autorisation qui est donnée en déclaratif. Cependant, si on vous contrôle et que les allégations sont mensongères, vous vous exposez quand même à de lourdes sanctions.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Fabienne Delahaye, fondatrice et présidente du Salon Made in France. Merci d'être intervenue. Ça, c'est Mireille Mathieu, Made in France. Bien sûr RTL, et c'est une info 100% made in France, même si elle est teintée de département de la Vendée aujourd'hui, bien sûr.
Mais c'est la France, Pascal.
Mais vous faites bien de rappeler cette évidence. Cette évidence. C'est le vendredi 11 novembre, nous travaillons, nous sommes en direct, c'est férié. Vous êtes peut-être en train de vous balader en France, justement, sur les routes de France. Nous écoutez, vous êtes bien sur RTL. La pause et nous revenons dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et comme tous les jours, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline.
Les 230 migrants de l'Ocean Viking ont débarqué ce matin à Toulon, une première en France qui divise la classe politique, vous l'entendrez. Tous les élevages de volailles doivent se confiner, la menace de grippe aviaire est désormais élevée sur l'ensemble du pays. Il s'appelle Primapri, il est espagnol et c'est le nouvel acteur du low cost en France. Deux magasins viennent d'ouvrir en Ile-de-France, mais le secteur est-il toujours aussi porteur? On en parle après le journal. À suivre également le retour du mythique combi Volkswagen, mais version électrique. Le mondial de foot au Qatar qui débute dans 9 jours, mais la question des droits humains supplante une fois encore l'aspect sportif. Et puis votre rendez-vous culture, LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui, le retour de Kenji Girac, l'école de la vie, son 5e album sort ce vendredi. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la guerre de 14-18, puisque nous sommes le 11 novembre que nous commémorons l'armistice. Par
parlez-vous de l'histoire de votre famille à vos enfants ?
Effectivement, a priori, nous avons tous un grand-père ou un arrière-grand-père qui est mort à Verdun. On en parlera à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole, 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
La météo à la fin du journal avec vous, Valérie Quintin. Mais oui. Déjà, un indice, bon, c'est mitigé, quoi.
Alors, disons qu'il va faire beau et c'est vrai que sur la moitié nord, on a un petit peu de mal à y croire, mais si tout va bien, ça devrait se lever.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Mais pour commencer, direction donc la Belgique, au lendemain du meurtre d'un policier hier soir à Bruxelles. On apprend que l'assaillant était fiché par les services antiterroristes. Il a poignardé deux agents dans leur voiture. L'un d'eux n'a pas survécu. Un drame, Elena Loison, qui, au regard des premiers éléments de l'enquête, aurait peut-être pu être évité.
Oui, car hier matin, vers 10h, Yacine M, 32 ans, un Belge habitant de Bruxelles, bien connu de la justice, se rend au commissariat d'Evere, dans le nord de la capitale. Ses propos sont incohérents, il dit vouloir s'en prendre à des policiers, il demande de l'aide psychologique. Au commissariat, les agents s'aperçoivent que le jeune homme est fiché par les services de renseignement pour son extrémisme religieux, mais c'est là que la procédure va dysfonctionner. L'internement d'office n'est possible que si la personne s'oppose aux soins, or Yacine M accepte et demande même de l'aide pour ne pas passer à l'acte. La police l'accompagne à l'hôpital à sa demande, attend sa prise en charge puis s'en va. Les agents apprennent quelques heures plus tard que le jeune homme est ressorti. On ignore pour l'heure dans quelles conditions. Vers 19h, il s'en prend à une patrouille arrêtée à un feu rouge, poignarde à la gorge un agent avant d'être blessé par balle par des renforts. L'enquête est aujourd'hui ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat commis dans un contexte terroriste.
Merci Elena Loison en Belgique pour RTL.
Comme attendu, les 230 migrants de l'Ocean Viking ont débarqué à Toulon.
Ce matin, oui, une première en France, mais le périple de ces femmes, hommes et enfants qui ont erré de longues semaines en Méditerranée n'est pas terminé pour autant, Étienne Baudu.
Non, pas tout à fait. Alors d'abord, hein, ce matin, dans le port ont tout d'abord eu lieu les évaluations sanitaires et une personne a finalement été hospitalisée après les quatre autres déjà évacuées en Corse. Ensuite, eh bien, les vérifications d'identité vont être effectuées par la police de l'air et des frontières ainsi que par la DGSI. Et puis au fur et à mesure, les passagers de l'Ocean Viking vont être tous transportés en bus vers un village de vacances sur la presqu'île de Gien, à quelques kilomètres. Un arrêté préfectoral a transformé ce village en zone d'attente temporaire. Les migrants, en fait, ne sont donc pas encore officiellement sur le sol français. À partir de ce soir, les agents de l'OFPRA vont interroger les migrants, savoir s'ils font une demande d'asile. Et ils auront à charge de dire si ces demandes sont fondées ou non. Si elles ne le sont pas, eh bien, les demandeurs déboutés repartiront dans leur pays d'origine. Si elles sont fondées, les demandeurs entreront à ce moment-là dans le parcours classique. Ils quitteront le village pour des lieux d'hébergement dans la région. C'est aussi à ce moment-là que certains demandeurs seront relocalisés dans d'autres pays européens. Un tiers des passagers de l'Ocean Viking dont les demandes d'asile seront examinées et acceptées resteront en France. Un autre tiers pourrait aller en Allemagne. Le dernier tiers dans les 8 autres pays européens qui ont accepté de les accueillir.
Étienne Baudu à Toulon, donc pour RTL. Alors cette affaire, on l'a beaucoup dit, a viré au bras de fer diplomatique entre l'Italie et la France. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, dénonce une réaction française agressive, incompréhensible et injustifiée après les annonces de rétorsion française. Mais ce choix d'accueillir l'Ocean Viking a divisé aussi au sein de la classe politique française, Marie-Bénédicte Allaire. Et alors qu'Emmanuel Macron semblait tendre la main au LR ces dernières semaines, une partie de la droite est aujourd'hui très critique.
Oui, Congrès des Républicains oblige, les candidats Éric Ciotti et Bruno Retailleau ont sans tarder dénoncé un gouvernement laxiste qui, à leurs yeux, se rend complice des passeurs par cet accueil humanitaire. Une réaction proche de celle de Marine Le Pen, car ils sont convaincus que l'immigration est un marqueur pour l'opinion de droite et un angle mort de la politique d'Emmanuel Macron. Aurélien Pradier, également candidat, est beaucoup plus réservé. Un de ses proches invoque même le devoir d'humanité. En fait, ce drame est une nouvelle illustration des fractures au sein de LR. On les retrouve chez les députés. Une partie est farouchement opposée à toute alliance avec la majorité. Une autre prête à travailler avec le gouvernement. Et puis il y a le marais des indécis. La clarification, elle se fera sans doute après le congrès de décembre. La gauche, elle, applaudit unanimement l'accueil de l'Ocean Viking, mais ce n'est pas ce qui la rendra plus conciliante avec le gouvernement. Pour résumer, l'attitude vis-à-vis de ces réfugiés ne bousculera pas les équilibres politiques ou alors à la marge.
Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
Les catholiques sous le choc après ce nouveau scandale qui secoue l'église de Rome. RTL vous le révélait hier, un prêtre breton est aujourd'hui incarcéré, accusé de viol aggravé sur mineur.
Oui, l'homme qui officiait dans la paroisse Saint-Louis-Marie en Brosséliande a été arrêté la semaine dernière à Paris. Il venait de passer la soirée avec un adolescent, Maxime Lévy, et on en sait davantage aujourd'hui sur ce qui a conduit à son interpellation.
Oui, la nuit est déjà tombée. Ce jeudi 3 novembre, peu avant 23h, les pompiers donnent l'alerte. Un jeune homme de 15 ans a visiblement été agressé. Un équipage de police se rend sur place à quelques immeubles de l'Opéra de Paris. Sur place, l'adolescent est accompagné de trois de ses amis. C'est elles qui ont prévenu les secours. Elles sont parvenues à géolocaliser leur copain grâce à son portable. Assis sur un banc, il se plaint de douleurs au ventre, raconte qu'il a été drogué. Ses souvenirs sont très flous. Les pompiers expliquent qu'il présente des signes de viol. Malgré son état, l'adolescent parvient à expliquer qu'il a rencontré peu de temps avant un homme plus vieux que lui dans un bar, avant de monter dans un hôtel du quartier. Une chambre au quatrième étage. À la réception, les policiers découvrent donc qui est son occupant, le père Yannick, un curé breton de 52 ans. Il est aussitôt interpellé, alors que le jeune homme, lui, en état de choc, est transféré à l'hôpital.
Maxime Lévy pour RTL, merci beaucoup.
Alors que près de 800 000 volailles ont déjà été abattues, les éleveurs ont désormais l'obligation de confier leurs animaux.
Car le risque de grippe aviaire est désormais élevé sur l'ensemble du territoire. Terminé donc pour l'instant l'élevage en plein air. Ce qui n'est pas sans conséquences, comme l'explique Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne.
Les bâtiments sont juste là pour les accueillir la nuit. Ils sont aucunement adaptés au fait que les animaux restent plusieurs mois dans ces conditions-là. Donc ça pose les problèmes de bien-traitance animale, ça pose les problèmes de croissance des animaux. Ces animaux vont moins grossir ou moins rapidement, donc il va falloir leur donner plus à manger, plus longtemps. Donc il y a une perte économique qui va être importante et qui va être nette à la fin de l'hiver. Ça, c'est une certitude. Et puis, ça pose également le problème du lien aux consommateurs. Ces éleveurs et ces éleveuses-là communiquent sur le fait que leurs animaux sont élevés en plein air. On est là sur une tromperie, voire un mensonge, parce que ça ne remet pas en cause la dénomination plein air ou la dénomination d'agriculture biologique. Et ça, c'est quand même pour le moins troublant.
Un propos recueilli pour RTL par Agathe Landé.
RTL Midi. Avis aux nostalgiques, ils sont d'ailleurs les bienvenus. Après le retour de la R5, de la 4L, revoilà le combi Volkswagen vivement hier.
Ah, ça vous plaît ça, Pascal, hein? Alors que la fin des véhicules thermiques est annoncée pour 2035, le combi revient en effet. Mais ça, et ça va peut-être vous contrarier un petit peu, Pascal, dans une version électrique, Christophe Bourg.
Eh oui, Pascal, c'est retour vers le futur. Alors, quand vous prenez le volant de ce nouveau combi, justement, il faut oublier ça. Alors ça, c'était avant, avec ce teuf-teuf, vous avez les premiers combis avec un moteur de coccinelle. Aujourd'hui, place à ça. Ben, il n'y a rien, puisque c'est le silence. Et ouais, c'est ce qui frappe quand on prend le volant de cette ID.Buzz. Il s'appelle ID.Buzz. 419 km d'autonomie pour ce gros bébé de près de 2,4 tonnes. Il est deux fois plus lourd que son aîné et qui réussit malgré tout l'exploit de reproduire la même bouille craquante que le combi d'origine. 5 places avec l'ADN, la même ADN de ce combi vieux de 72 ans, popularisé en 69 par le festival de Woodstock. Aujourd'hui, l'esprit reste le même. On peut par exemple, en coulissant la banquette arrière, poser un matelas pour dormir ou faire un câlin. Hippie chic, parce que son prix démarre à 57 000 euros.
Ah oui, c'est des hippies chics. Mais bon, c'est le prix de la nostalgie.
C'est le prix de la nostalgie.
Merci beaucoup, Christophe Moreau, spécialiste auto et combi, ici à RTL.
J-9 désormais, avant le début du mondial au Qatar, et monsieur Georges Rau a déjà fait sa valise, j'imagine. Et une
pas
fois
encore.
De plus, c'est. Ah ben, prenez pas d'affaires chaudes pour le Qatar. Et une fois de plus, c'est l'extra sportif qui fait la une.
Avec ce bras de fer, oui, entre la Fédération du Danemark et la FIFA, les Danois qui voulaient porter à l'entraînement un maillot particulier avec ce message droit humain pour tous. Critique pas du tout voilée au fonctionnement de l'Émirat. Et la FIFA a refusé, Nicolas Georgerot.
Oui, la fédération danoise avait effectivement formulé cette demande et le Danemark est l'un des pays les plus contestataires depuis plusieurs mois à propos de la tenue de cette Coupe du Monde au Qatar. Intransigeance de la FIFA qui interdit les messages politiques. Le patron de la fédération danoise, Jacob Jensen, l'a confirmé au micro d'une télé de son pays.
Nous ne pensons pas que ce soit si étrange qu'il y ait de la politique là-dedans. Les droits de l'homme sont universels et nous partageons ce point de vue. La FIFA avait une évaluation différente et malheureusement, nous avons dû en tenir compte.
La pression était trop forte. Le Danemark aurait pu en subir les conséquences sur le terrain.
Les règlements indiquent que vous pouvez recevoir des sanctions assez graves. En fin de compte, nous pourrions être considérés comme forfait et perdre le match 3-0.
La FIFA, la semaine dernière, on le rappelle, a envoyé un courrier aux 32 nations qualifiées, les appelant, je cite, à se concentrer sur le football, à ne pas entrer dans chaque bataille idéologique ou politique. L'équipementier de la sélection danoise a également indiqué que les logos de la marque allaient être cachés et n'apparaîtraient pas sur les maillots lors des rencontres, en signe, là aussi, évidemment, de protestation contre le Qatar.
Merci Nicolas. On ne sait pas si lui a déjà préparé sa valise, mais avant de s'envoler au Qatar, Karim Benzema est attendu à Bron, près de Lyon, aujourd'hui. Une fresque à son image a été dévoilée. Il pourrait aussi se présenter son ballon d'or même aux supporters de l'OL, son club formateur, à l'occasion du match de championnat ce soir entre Lyon et Nice. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin avec la grisaille qui résiste par endroits.
Alors oui, ce sera surtout le cas du Val de Saône jusqu'à l'Alsace, mais on a encore pas mal de grisaille entre la Bretagne, le bassin parisien, les Ardennes. Alors peu à peu, ça commence déjà à se disloquer. C'est le cas pour le Finistère, les Côtes d'Armor, le Cotentin, la Somme ou encore le Pas-de-Calais. Même à Paris, on a aperçu 2-3 petites éclaircies, donc ça va se lever. Partout ailleurs, un temps très ensoleillé cet après-midi, excepté quand même en Languedoc où on a pas mal d'entrées maritimes. Ça va donner donc même peut-être quelques averses sur les hauteurs. Les températures cet après-midi, il va falloir évidemment que le soleil arrive. 12 degrés attendus à Reims, 14 à Paris et Besançon, 15 au Mans et à Lyon, 18 à Aurillac et 21 degrés à Limoges comme à Nîmes.
Merci. Allez-y.
J'ai regardé par curiosité la météo du 11 novembre 1918.
Oui.
Eh bien, figurez-vous qu'il y avait 0 degré à Paris, moins 1 à Nantes et au Mans, 1 degré à Limoges, et le plus haut, c'était 12 degrés à Marseille.
C'était mieux voilà. Avant, alors, ou pas?
Il faisait plus froid, manifestement. Dans un instant, Prima Prix, on dirait une chanson de Dalida, mais non, c'est le loco.
Un personnage d'Astérix le Gaulois.
Exactement. Prima Prix, on dit le X?
Je crois pas, non.
Je crois
Prima
pas.
Prix.
C'est espagnol.
C'est donc, une c'est nouvelle pas. Enseigne low cost. Low cost, ça veut dire que c'est pas cher. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Praud et Céline Landreau.
Vous connaissiez Action, Lidl, Leader Price. Et voilà, Prima Prix, le nouveau nom du low cost en France, une enseigne espagnole qui débarque en Ile-de-France. Valentin Boisset, vous êtes allé dans le magasin de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Dites-nous, alors à quoi ça ressemble un Prima Prix?
Eh ben, ça ressemble un petit peu à une épicerie et à un Ikea qu'on aurait réunis en bas d'une tour de quartier. Des produits pas chers, parfois frais, mais installés sur un parcours de visite qui fait que le client est obligé de passer devant chaque produit. Rien ne dépasse les 10 euros, pas même le 20. Et on a toute une gamme de produits basiques dont le prix ne dépasse pas 1 euro. Le paquet de pâtes, par exemple. Alors Nathalie en est sortie à peu près conquis ce matin.
Il y a des prix, par exemple le riz, il est beaucoup moins cher quand même. Il y a au moins 1 euro de différence sur les marques. Enfin, je regarde des marques hein, parce que le reste, il y a des trucs qui sont intéressants, les sauces tomates aussi.
Ça ressemble pas trop aux autres magasins de discount.
Il y a un petit peu, enfin non, parce que là, il y a quand même le parcours qui est... On passe partout. Est-ce que les autres magasins, vous avez des allées?
Voilà, donc elle finit par comparer ce magasin à Lidl. Prima Prix serait moins cher, selon elle. Et puis, il y a autre chose, très peu d'étiquettes en français, car les stocks vendus sont des lots étrangers, qui coûtent donc moins cher. Et ça ne plaît pas forcément, du moins, ça surprend certains clients, comme Stéphanie.
Quand on veut savoir comment s'utilise un produit, c'est en espagnol, parce que ça vient d'Espagne. Il y a du portugais, j'ai vu une fois en français, mais sinon, non. Ouais, faut prendre un traducteur.
Voilà, pour l'instant, il y a 2 magasins en Ile-de-France, mais la marque a prévenu, d'ici la fin de l'année, d'autres ouvriront ailleurs.
Merci beaucoup Valentin Boisset à Montreuil, donc pour RTL. Voilà une nouvelle enseigne low cost, polyglotte, hein, qui débarque en France. Ça veut dire que le marché se porte bien. Martial You, bonjour d'abord.
Bonjour.
Il y a encore de la place pour le low cost?
Alors oui, il y a de la place parce que en fait, là c'est la catégorie, la famille des déstockeurs. C'est-à-dire qu'on connaissait les hard discounts, ça c'était Lidl par exemple, ou Aldi. Les déstockeurs, c'est ce qui perturbe un peu les gens qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que vous revenez dans une semaine, vous n'aurez pas forcément les mêmes produits en magasin, parce que le principe c'est qu'ils récupèrent tout ce qui n'a pas été vendu chez les autres. Et c'est vrai qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que ce sont des nouveaux concepts qui arrivent, et le low cost, c'est ce qui marche le mieux en ce moment. En période d'inflation, ça paraît assez logique. Lidl a atteint 8% de part de marché, a gagné 800 000 clients sur l'année écoulée. Aldi frôle les 3% de parts de marché. Et finalement, c'est beaucoup plus dynamique que chez les acteurs traditionnels. D'ailleurs, cette semaine, vous avez Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui a donné son plan stratégique sur les prochaines années. Il a mis en avant les petits prix. C'est ça qu'il va développer. Il va ramener en France un concept qu'il connaît au Brésil qui s'appelle Atacadão.
Atacadão, c'est quoi?
C'est en gros à la fois du low cost, 10 à 15% moins cher toute l'année, mais surtout c'est du gros conditionnement. Donc vous arrivez sur des palettes, vous allez acheter 5 kilos de riz, vous allez acheter un bidon
c'est
d'huile
pratique.
De 5 litres.
C'est pratique.
C'est pratique. Il faut pouvoir le stocker.
C'est-à-dire qu'à Paris, ça va être compliqué. C'est pratique, c'était un peu ironique.
Oui,
vous voyez,
voilà.
Si
vous mais il y a des endroits où ça marche très bien si vous avez une cave.
Bon, ce qui est vrai, c'est que les premiers low cost, finalement, ça a été les supermarchés dans les années 60.
Oui.
C'était le low cost du magasin traditionnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les supermarchés doivent s'inquiéter?
Alors, en fait, ils s'adaptent surtout. C'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à faire. C'est vrai que quand on se rappelle dans les années 30 du slogan de Monoprix, c'était moins cher que moins cher. C'était ça. Aujourd'hui, Monoprix. Oui, on s'en souvient plus, même nous.
Aujourd'hui, si on fait quoi pour vous aujourd'hui, ça, voilà. On parle plus des prix.
Mais on remet en fait. C'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'on remet en avant le prix parce que c'est la première chose que regardent en période d'inflation les clients. Et c'est vrai que là où c'est compliqué, c'est pour les hypermarchés. C'est-à-dire que eux, le concept de l'hypermarché est un peu plus fragile aujourd'hui. Le supermarché, la surface un peu plus petite, elle se rapproche des centres-villes et elle arrive à trouver une nouvelle jeunesse.
On a l'impression, Martial, quand même, que tous les 2-3 ans, on a comme ça un nouveau nom, une nouvelle enseigne qui débarque. Elle résiste comment dans la durée?
Alors, ça trouve sa place, parce que ça finit par grignoter des parts de marché sur les autres acteurs historiques. Et puis, vous avez parfois quelques ratés, mais assez rares. Dans les dernières années, on avait annoncé l'arrivée du Canadien Costco, en disant ça va révolutionner, parce que c'est avec un abonnement, une sorte de carte qui vous permet d'être membre et d'aller dans ces magasins-là. Ça n'a pas marché tellement pour l'instant, parce qu'il faut des très très grosses surfaces, et c'est plus dans l'air du temps, les maires autorisent plus la construction de très grosses surfaces. Et puis vous aviez le russe maire qui devait tout casser, sauf que le russe devait s'implanter en février dernier. Il s'est passé un petit truc en Ukraine, qui fait que ça a été compliqué.
Bon. Pour ceux qui nous écoutent, prime à prix, ça n'existe pas en région aujourd'hui, ça existe
ils
que dans la région parisienne.
Pour l'instant, mais ils vont se développer. Ça va à une vitesse de dingue. Hein. Ouais. Action dont on parlait, ils ouvrent une douzaine de magasins en France tous les mois, 100 par an. Ouais. Ils n'existaient pas il y a 5 ans.
Merci beaucoup, Martial You, chef du service économie sociale d'RTL.
Merci beaucoup. Dans un instant, laissez-vous tenter. Kenji Girac, qui revient. Je ne savais pas qu'il était parti, d'ailleurs, mais il revient. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Hier, on parlait de Michel Sardou avec Steven Bellery. Et aujourd'hui, c'est un autre retour peut-être de Kenji Girac.
Ça vous change, hein, Pascal. Il est devenu en 8 ans l'un des chanteurs français les plus populaires. A déjà vendu 4 millions de disques. Son 5e album sort aujourd'hui. Il s'appelle L'école de la vie. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
Vous avez donc rencontré ce chanteur de 26 ans.
Oui, de retour avec une collection de 10 chansons, mais alors très éclectique. Kenji mélange gypsy pop, pop urbaine et ballade dans cet album, inspiré par cette période où sa jeunesse s'évanouit et les responsabilités s'imposent à lui. Le chanteur vainqueur de The Voice en 2014 en est fier aujourd'hui. Il s'est construit grâce à l'école de la vie.
Très jeune, je travaillais déjà manuellement. En fait, j'aidais mon père, tout ça. C'était l'élagage, donc c'était un travail physique. Donc, je le prenais aussi un peu comme mon sport. Donc, voilà, c'était une grande passion. Et vu que je voyageais souvent partout en France, tout ça m'a appris pas mal de choses. C'est s'élever, c'est grandir avec un naturel.
Justement, dans Les Jeunes, une chanson que j'aime beaucoup, vous chantez. Trop peu d'école à côté de vous, c'est vrai, j'avoue, mais j'ai l'instinct, moi, je m'en fous. La vie, justement, et ce parcours, ça a fait quelqu'un d'instinctif.
C'est vrai que j'agis beaucoup avec l'instinct sur le moment. Mais je pense que jusqu'ici, ouais, ça m'a amené sur un bon chemin. J'ai pas eu d'autre professeur, mais c'est là que j'ai tout appris. On m'a donné des valeurs à l'école de la vie. J'étais peut-être un peu rêveur, j'ai même dû faire des conneries, mais j'ai toujours été à l'heure à l'école de la vie.
Kenji Girac, c'est qu'on le reconnaît toujours, et c'est ça sans doute le style.
Vocale, ouais.
Exactement, le chanteur est devenu papa d'une petite fille prénommée Eva.
Ouais, elle fêtera ses 2 ans en début d'année prochaine, et pour la première fois, Kenji chante sa paternité.
Je passe des moments juste incroyables avec ma fille, des moments de douceur. Et quand je plonge mon regard dans ses yeux, c'est juste incroyable. J'ai plus envie de quitter son regard, mais je m'amuse beaucoup. Donc, on m'a toujours dit qu'il fallait faire des enfants un peu jeunes, c'est vrai. Avant, j'avais peur de me dire, être papa, c'est quand même quelque chose d'important. J'étais impressionné par ce nom, papa. Et après, quand j'ai commencé à l'accepter et que j'ai découvert ma princesse, j'ai compris ça veut dire quoi, papa. Et j'ai compris c'est quoi d'avoir un enfant. C'est la plus belle des choses qu'on peut faire, je pense, dans la vie, quand on a la chance de pouvoir faire.
Vous qui êtes si pudique, ça a été compliqué d'enregistrer à cette chanson ou pas?
Quand j'ai demandé à Juliette Hermanet de travailler une chanson pour ma fille, ben, j'étais impatient de la voir parce que j'avais vraiment envie de faire ce cadeau. C'est la première fois que je me dévoile autant de ma vie privée, en fait, que je montre pas trop, histoire de protéger encore une fois la famille. C'était très important pour moi.
Dans ton cœur, va, je poserai mon bagage.
Titre signé Juliette Armanet, autre parolier de ce nouvel album de Kenji, c'est Vianney, Steven.
Là, c'est un copain. Il signe 3 chansons dans l'album. Vianney est devenu un complice de Kenji depuis l'album Amigo. C'est donc la 3e fois qu'il collabore, notamment pour ce titre, Les Jeunes.
Quand on connaît pas les jeunes, alors on ferme ça. Vous finirez tout seul.
Vianney, auteur également de la plus jolie chanson du disque Encore, un morceau enregistré en duo avec Florent Pagny. C'est d'ailleurs la première fois que Florent retournait en studio depuis l'annonce de son cancer en début d'année.
Ah, il y a longtemps que je voulais chanter avec Florent Pagny et il y a longtemps que je lui ai demandé à chaque fois quand je le voyais, je lui disais Florent, j'aimerais bien un jour faire un duo avec toi. Il y a quoi, il y a 3 ans je crois, je lui avais demandé. Et il me disait à chaque fois oui, bien sûr, sauf que fallait trouver le moment. Et là je lui ai demandé sur cet album, je lui ai dit voilà Florent, j'aimerais bien, tu m'avais promis une chanson, donc est-ce que tu veux la faire sur cet album? Il m'a dit mais bien sûr mon Kenji, ça fait longtemps que j'ai pas chanté en plus, donc pourquoi pas faire cette chanson. On l'a enregistré il y a pas si longtemps quand même, il y a bien 2 mois et demi, 3 mois. Il était bien, il était en forme, j'étais très content de le voir comme ça. Il a porté son matériel et tout, ça se voyait qu'il était content de rechanter. Je crois que ça faisait 1 an je crois à peu près qu'il avait pas rechanté. Il me dit c'est la première fois que je rechante, donc je vais tester ma voix. Il y avait un choix de tonalité sur cette chanson parce qu'elle quand même haute. Je voulais pas qu'il soit fatigué du tout, donc du coup je dis tu choisis la tonalité, tu prends celle qui te va le mieux. Ben, il nous a poussé une note en espace de 2 secondes, on a vite compris que et ouais voilà c'est Florent quoi. Ben, il avait une voix très claire et bien une voix juste incroyable. Et ben, il était étonné lui-même, il était fier de lui, mais ça se voyait, mais nous on était juste les grands yeux ouverts juste à côté.
De la vie, c'est le nom du nouvel album de Kenji Girac qui sort aujourd'hui.
Merci beaucoup Steven Bellery.
Merci, si vous voulez réagir également sur ce sujet, vous pourrez, comme sur tous les autres sujets.
C'est un beau destin Kenji quand même.
Exactement, et puis vous le connaissez évidemment bien, il est sympathique manifestement. Ah,
très sympathique, c'est un gamin attachant.
Il a 26 ans, il est jeune, on peut acheter son... CD en vinyle, ça sort toujours également.
En vinyle aussi, en streaming probablement.
Encore
pour sa génération.
Plus que jamais les vinyles, Pascal.
Exactement, 12h50.
Ça cartonne le vinyle, le marché.
12h58, les auditeurs dans une seconde.
RTL Midi.